Bonjour à toutes et tous. Si vous vous intéressez aux questions de défense et de sécurité, vous savez ce que représente le salon Eurosatory qui se déroule tous les deux ans à Paris. C'est cette année la 28e édition qui se tient du 17 au 21 juin prochain à Paris-Nord-Villepinte. Et Eurosatory, qui sponsorise cet épisode, sera comme à chaque fois le grand rendez-vous mondial de la défense et de la sécurité. Je veux juste dire, c'est un événement que je trouve très étonnant, assez fascinant. J'y suis allé pour la première fois il y a deux ans pour l'édition 2022. Et vraiment, si vous vous demandez ce qui se fait dans le monde militaire et en matière de sécurité, c'est là qu'on peut voir les dernières tendances, depuis les plus grandes geekeries et les innovations du moment, jusqu'aux grands équipements du futur pour les armées et les forces de sécurité en France et dans le monde. Bref, si vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatory.com. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de la Marine nationale, de son état et de ses perspectives, j'ai le plaisir et l'honneur d'être avec le chef d'état-major de la Marine depuis septembre 2023, l'amiral Nicolas Vaujour. Donc bonjour amiral, merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue dans Le Collimateur.
Bonjour Alexandre Jublin.
Alors, évidemment, quand on a le plaisir de pouvoir discuter avec un chef d'état-major en exercice, il y a toujours énormément à évoquer sur l'institution qui commande, sur ses perspectives, mais bon, l'intérêt et le luxe de ces conversations, c'est aussi de pouvoir parler un peu de votre parcours, par curiosité, pour savoir comment vous en êtes arrivé à vos fonctions actuelles, et puis aussi parce qu'un parcours de 3 décennies dans la Marine nationale, ça dit aussi toujours beaucoup de choses sur l'institution et sur son évolution. Donc, première question, amiral, pourquoi est-ce que vous êtes entré dans la Marine ?
Ah, ça, c'est une très bonne question. Alors d'abord, je souhaitais m'orienter effectivement vers la défense de notre pays. Et en fait, je ne m'orientais pas vers la marine. Je m'orientais vers Saint-Cyr. Et je préparais Saint-Cyr au Prytanée National Militaire. Mon père étant un cavalier de l'armée de terre. Et donc, j'étais un peu dans ses pas, dans ses traces. Et donc, c'est comme ça que j'ai préparé Saint-Cyr. Et
en fait, vous songez au Charles Leclerc à l'époque.
Je songeais au Charles Leclerc à l'époque. Tout à fait vrai, même plus que ça. En fait, j'avais même fait une étude sur le Charles Leclerc à l'époque. Voilà. Mais bon. Au bilan, une fois à l'école navale, on présentait plusieurs concours. Et il se trouve que j'ai eu et Saint-Cyr et Naval. Et dire pourquoi je suis rentré dans la marine est quelque chose qui est pas forcément très simple à décrypter, mais en fait à l'époque, il faut se remettre en 1989. On était à la chute du mur et les perspectives finalement d'emploi dans l'armée de terre étaient peut-être un tout petit peu moins exaltantes à ce moment-là que ce qui était proposé dans la marine. Et c'est comme ça que j'ai choisi la marine. C'était les dividendes de la paix, la fin de la
vous aviez envie de partir, froide, etc.
Et donc il y avait un côté voyage, aventure qui donnait des perspectives très intéressantes derrière. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la marine.
Et ensuite, une fois que vous êtes entré à l'école, puisque vous n'aviez plus la voie directe vers la cavalerie, comment est-ce que vous avez choisi, alors je veux dire, vous êtes surfacier, donc ni dans les sous-marins, ni dans l'aéronaval, comment est-ce que vous avez choisi ça? Et puis aussi, c'est-à-dire, une fois que vous avez décidé que c'était la marine, comment est-ce que vous avez décidé ce qui vous intéressait à l'intérieur de la marine?
D'abord, j'arrivais dans un milieu que je connaissais assez peu, en réalité, et donc j'ai fait mes premières armes sur frégate de surveillance outre-mer aux Antilles, puis après sur frégate encore à Brest sur le De Grasse. C'est là que s'est forgée ma conviction que j'étais vraiment fait pour les bateaux de surface, et notamment pour la spécialité de détecteur, c'est-à-dire en charge des opérations, qui a été le driver assez fort finalement de l'ensemble de ma carrière, mais qui s'est forgée d'abord sur les deux premières affectations. J'ai tenté les sous-marins comme tout le monde, j'ai été faire un stage sur les sous-marins, j'ai été plongeur de bord, j'ai regardé un petit peu à droite à gauche. Malheureusement, vu ma vue, je ne pouvais pas être pilote. Donc ça, j'ai pas testé, mais pour le reste, voilà. Donc ça m'a orienté assez naturellement vers finalement les centrales opérations et la carrière au sein des opérations.
Plongeur de bord, c'était pourquoi? C'était pour les commandos marines?
Plongeur de bord, c'est parce que j'ai toujours eu une appétence pour la plongée. Je me suis dit, pourquoi pas dans la marine? Et je me suis posé des questions sur pourquoi pas plongeur des mineurs un jour. Et puis voilà, finalement, l'histoire a fait que ça a été détecteur. Et donc, les centrales opérations dans la marine est quasiment la majeure partie des frégates de défense aérienne en fait, de la marine, j'ai été affecté dessus. Que ce soit Cassard, Jean Bart, Forbin, Chevalier-Paul, j'ai été affecté sur tous ces bateaux-là où je me suis de fait spécialisé dans la gestion des opérations au sein des bateaux. Et puis un peu plus tard, au sein de la marine et au sein des forces armées.
Mais qu'est-ce qui vous intéressait là-dedans ? Enfin, quoi dans le métier vous faisait vous sentir à votre place ou vous stimulait ?
En fait, c'est toujours très compliqué de dire quoi exactement.
Parce que c'était quand vous rentrez,
quand vous êtes en passerelle d'un bateau et que vous êtes chef du car, vous êtes à la manœuvre. Et donc vous avez un impact sur ce qui se passe, vous dirigez une équipe, vous avez le sentiment de participer à quelque chose de plus grand, et donc vous êtes dans le cœur de la mission, dans le cœur de l'exécution de la mission, et dans le cœur du pourquoi vous vous êtes engagé. J'allais dire c'est le premier step de ma carrière, c'est la passerelle où vous êtes chef du car, vous apprenez les bases du métier de marin, et assez rapidement... Le central opération, c'est l'exécution de la mission, c'est ce pourquoi vous êtes là. Vous n'êtes pas uniquement en train de piloter le bateau, vous pilotez l'ensemble de la mission derrière et vous faites face à la fois la menace, à la fois ce qui se passe autour de vous, etc. Et ce côté...
Parce qu'on peut préciser que le central opération, c'est un endroit distinct, c'est-à-dire c'est à l'intérieur du navire. C'est d'ailleurs un endroit qui ressemble assez peu à la passerelle. Enfin, la passerelle, c'est là où il y a des vitres et le central d'opération, c'est là où il n'y en a pas. Et où on travaille sur beaucoup d'écrans à cartographier la menace et en fait à apprécier la situation tactique.
Exactement, et à remplir la mission qu'on vous a fixée. Ça peut être de la lutte contre les narcotrafiquants, ça peut être de chercher une flotte adverse et la pister, ça peut être plein de missions comme on peut les voir aujourd'hui dans la marine. Des missions en Méditerranée, des missions de Rézévac en Haïti ou au Soudan, des missions dans le Grand Nord, des missions en Océan Indien, de lutte contre la piraterie ou autre, ou de protection du trafic maritime aujourd'hui en mer Rouge. Donc c'est toute cette puissance de l'actualité, de la conscience de participer à quelque chose de protection des intérêts, de défense de la nation et un peu partout dans le monde. C'est quelque chose qui était assez, assez exaltant et qui... de fait m'a fait rapprocher du central opération quelque part, et puis je m'y suis senti bien parce que c'est un endroit où il faut être hyper réactif, il faut comprendre ce qui se passe autour de nous, il faut être capable d'analyser, d'anticiper et tout ça dans un tempo très rapide. Donc c'est quelque chose qui m'attirait tout particulièrement.
Et ensuite c'était quoi votre premier commandement?
Mon premier commandement, alors j'ai commandé 3 bâtiments. Mon premier commandement, c'était le bâtiment école Lyon. Alors là, j'allais dire, c'est...
C'est particulier, un bâtiment école.
Le bâtiment école, c'est très particulier. C'est une coque de chalutier sur lequel vous faites monter entre 10 et 15 élèves de l'école navale ou de l'école de manœuvre derrière pour apprendre à naviguer. Donc vous naviguez dans les cailloux. Et en Bretagne, Dieu sait s'il y en a beaucoup, autour de l'île de Sein ou de l'île de Groix, et vous apprenez à tous ces jeunes gens à devenir de bons chefs du car. En fait, c'est un commandement où vous avez une extraordinaire liberté d'action. Vous partez avec votre feuille de route en vous disant, tiens, vous avez vos 15 élèves à former, et vous revenez à la fin de la semaine, en ayant rempli vos objectifs, mais peu importe là où vous êtes allé, c'est vous qui avez décidé, vous avez tout décidé. Et c'est un moment où on se forge véritablement comme commandant. Vous êtes à la tête d'une petite équipe, en fait, en réalité, mais avec des objectifs qui sont assez nobles. Et donc, c'est un très, très bon moment de la carrière, le premier commandement. Et alors, c'est toujours un moment un peu... on se pose des questions, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne vais pas y arriver?
Est-ce que je sais si bien ces choses que je vais enseigner?
Est-ce que, exactement, on est très très jeune en fait, hein, j'étais encore enseigne de vaisseau quand j'ai pris le commandement du Lyon, mais en fait on se rend compte qu'on est extrêmement bien entouré par son équipage, et par l'expertise qui est développée par son second, qui était un maître principal, qui était un type dont je me souviendrai toujours, maître principal Zalo, s'il m'écoute aujourd'hui, mais qui m'a beaucoup aidé en fait à forger justement mon caractère, à forger ma manière de faire d'appliquer mon commandement, etc. Donc ça a été mon premier commandement, le BE Lyon au large de Brest. Une année enthousiasmante, en fait, en réalité, qui forge pas mal.
Et ouais, parce qu'en plus, vous avez dû en voir passer des élèves officiers.
On en voit passer. Alors,
vous en avez recroisé beaucoup ?
Alors, oui, j'en ai recroisé. Il y en a certains qui sont encore pas loin sous mes ordres. C'est très intéressant parce que Les élèves à ce moment-là sont des éponges, c'est-à-dire qu'ils absorbent tout ce que vous leur apprenez. Et j'en ai tiré non pas une règle de vie, mais en tout cas quelque chose qui m'a profondément marqué, et c'est bien de cette époque-là que ça date. Vos élèves, tout comme vos officiers après sur vos bateaux, ils arrivent avec leurs qualités, ils repartent avec vos défauts. Et ça, je pense que c'est assez fondamental dans la manière de commander, d'avoir conscience de ça. Chacun arrive avec ses qualités, mais souvent, en fait, ils absorbent non seulement vos propres qualités dans la manière dont vous commandez, mais aussi les défauts. Et donc, j'ai pu observer sur le Lion, on avait eu une corvette qui avait duré... on avait les mêmes élèves pendant 3 semaines, quasiment, c'était assez rare. Et en fait, entre le début de ces 3 semaines et la fin des 3 semaines, à la fin des 3 semaines, je lisais dans le regard ou dans la manière de faire des élèves mes défauts. Et ça m'a véritablement marqué, et ça m'a beaucoup appris sur mon commandement d'abord, et puis ensuite sur la manière dont il faut appréhender ces choses-là, la manière de faire.
C'était quoi ces défauts à l'époque ? On n'est pas obligé de répondre, mais c'était...
Non, mais en fait, vous avez forcément vos manières de faire, et les élèves s'adaptent d'abord à ça, toujours, et donc vos officiers, en fait, et les gens que vous avez sous vos ordres vont s'adapter à vos défauts. Peut-être vous allez crier à ce moment-là, ou peut-être vous allez dire « je veux ci exactement dans telle manière », vous allez faire preuve d'un peu de rigorisme quelque part, dans une manière d'appliquer une procédure ou quelque chose comme ça. Assez rapidement, il s'adapte à ce défaut-là, et puis après, il réplique votre manière de faire, et à la fin, vous, en prenant un peu de recul, vous vous rendez compte qu'en fait, ils ont complètement adopté votre manière de faire, qui finalement, quand vous voyez de l'extérieur, peut vous sembler comme être un défaut.
Alors, ensuite, vous êtes arrivé à Paris, comme c'est souvent le cas dans les carrières d'officier, où vous avez notamment été assistant militaire d'un personnage qui est, enfin, assistant naval d'un personnage qui est intéressant, qui est récemment disparu, mais qui a eu une très grande influence et une très grande postérité, qui est le général Georges Lin. Alors, quel souvenir vous gardez de ça, de lui, et puis surtout de ses fonctions, c'est-à-dire avoir été si proche de quelqu'un qui a été à ce point-là, si longtemps, au cœur du réacteur, ça doit marquer, ça doit former.
C'est une expérience, assistant militaire du chef d'état-major des armées, est une expérience assez, assez exaltante et à la fois éprouvante, parce qu'en fait, vous êtes de fait dans le cœur de la machine, dans le cœur de la turbine, et être à côté d'un personnage aussi emblématique que le général Georges Lin a été quelque chose où j'ai également beaucoup appris, parce qu'il s'agissait pour moi d'aller préparer ses dossiers, l'accompagner quand on allait en audition à l'Assemblée nationale, l'accompagner dans ses déplacements, et ainsi de suite. Et donc, ça permettait de voir la manière dont il réfléchissait, la manière dont il anticipait les problèmes, et la manière dont il gérait la charnière politico-militaire entre le développement des armées et la discussion avec l'autorité politique. Donc j'ai évidemment énormément appris à cette époque-là, il faut...
Vous étiez loin du slalom entre les cailloux en Bretagne.
On était loin du slalom entre les cailloux en Bretagne. Si je dois me remémorer les noms des personnes qui étaient dans l'entourage du général Georges Lin à l'époque, le chef de cabinet était un certain Bernard Rogel.
Donc, il était ensuite chef d'état-major de la marine.
De communication était un certain Christophe Prazuc.
Qui a été aussi chef d'état-major de la marine.
L'adjoint du chef de communication était un certain Thierry Burkhard,
chef d'état-major des armées.
Et donc, moi, j'étais assistant militaire marine derrière.
C'est pour ça que je dis qu'il a eu une grande influence, une grande postérité. C'est donc, qu'il a, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a fait école.
Non seulement, effectivement, j'ai énormément appris, mais de fait, ça m'a énormément bénéficié quelque part, parce que avoir été dans cet entourage-là nous lance en fait sur une dynamique où on comprend beaucoup plus de choses et de la manière dont on décide et la manière dont on oriente les travaux des armées à un niveau stratégique qui permet de prendre à la fois du recul et de la profondeur dans la manière dont vous gérez après les choses au quotidien. Donc de fait, ça m'a fait passer à un niveau stratégique rapidement. J'ai eu cette chance-là. C'était juste après l'école de guerre. Et donc, pour moi, ça a été une expérience évidemment formidable.
Ça vous a plu, Paris, ou est-ce que vous aviez envie de retrouver un navire tout de suite?
Alors, on dit souvent que Paris, c'est le premier port de France. En fait, non, Paris ne m'enthousiasme pas plus que ça. J'ai passé 14 ans à Toulon, en fait, en réalité, dans l'ensemble de ma carrière. 2 ans et demi à Brest, et le reste, une dizaine d'années à Paris. Un peu plus d'une dizaine d'années à Paris. Donc, de fait, j'ai été beaucoup employé à Paris. C'est une autre manière de servir Paris, mais vous êtes aussi dans le cœur de la fabrique à décision, entre guillemets. Vous construisez la marine du futur. J'ai par exemple été à la division cohérence capacitaire de l'état-major des armées, où j'ai participé au design des futures frégates de défense et d'intervention. Et aujourd'hui, comme chef d'état-major de la marine, je vois arriver l'amiral Renard aujourd'hui à Lorient.
L'amiral Renard, c'est le nom de la première FDI qui va être livrée dans quelques mois.
Exactement. Et donc, j'ai eu cette chance, ce qui est assez rare finalement, d'avoir participé au design de quelque chose et de voir sa fabrication aboutir alors que je suis encore dans la marine et en plus dans un poste de responsabilité. Donc c'est vraiment intéressant de travailler à Paris. Vous faites des choses, vous voyez des choses avancer. Mais évidemment, je dois reconnaître que la ligne d'horizon, le soleil couchant et les missions lointaines, c'est quelque chose que je garderai ancré en moi très longtemps. J'ai fait beaucoup de missions en océan Indien, j'ai été au-delà du cercle polaire dans le Grand Nord, j'ai fait énormément de choses au large de la Syrie, en Méditerranée, en Atlantique, dans le golfe de Guinée, enfin voilà, j'ai pas mal...
Alors, restons une seconde là-dessus sur cette FDI, enfin CFDI qui arrive. C'est hyper intéressant parce que ça renvoie à une notion qui est assez... Non, pas propre, enfin si, qui est assez caractéristique de la marine, c'est les longues temporalités. C'est des programmes qui sont longs, c'est des bateaux qui vont durer longtemps. Faut penser l'avenir sur le temps long. Et justement, ces FDI qui arrivent là, puisque c'était il y a longtemps quand même, mine de rien que vous étiez un peu à la manette, vous les reconnaissez, vos FDI ? Est-ce que c'est toujours les FDI que vous avez conçus ou est-ce qu'elles ont beaucoup évolué depuis ?
Ah non, elles sont assez proches de ce qu'on a conçu, en fait, dès le départ. Il y a eu quelques petites évolutions, mais finalement, pas tant que ça. Ce qui est assez intéressant dans ce que vous dites sur le temps long, c'est que, assez fondamentalement dans la marine, c'est vrai aussi un petit peu dans les autres armées malgré tout, mais la marine, c'est assez structurel. On est sur à la fois du temps très long et du temps très court. Alors, je dis toujours qu'il faut avoir la détermination du temps long et l'agilité du temps court. L'agilité du temps court, c'est s'adapter à l'immédiateté des menaces et des nouvelles menaces qu'on voit arriver, des nouveaux problèmes qu'on voit arriver. Donc il faut être capable d'adapter son bateau, son équipage, son entraînement, etc. pour faire face. Et la détermination du temps long, c'est que pour faire un bateau, il faut 7 ans. Pour faire un sous-marin nucléaire d'attaque, il faut 10 ans. Et pour faire un porte-avions, il faut 15 ans. Voilà. Et donc, quand on lance le SNLE 3e génération...
À quoi il faut ajouter que même vont durer 20, 30, 40, 50 ans.
Et après, ils vont durer...
réfléchir à l'échelle du siècle, quoi.
40 ans, au moins. Et donc, ça veut dire que, de fait, pour un sous-marin nucléaire d'attaque, comme les Barracuda, ben, vous prenez 40 ans plus 10 ans, et sachant que la construction s'étale sur à peu près 10 ans encore, donc vous êtes déjà dans une temporalité de 60 ans. Et sachant que quand vous lancez la construction, ça veut dire qu'on a déjà travaillé sur cette équation-là 5 ans au moins avant. Donc oui, on est dans des temporalités qui sont effectivement plus proches du siècle que des 10 ans. Donc on a besoin de travailler sur le temps long, et donc de ne pas se tromper. Et si je prends un peu de recul, on est, moi chef d'état-major de la marine aujourd'hui, je suis à la fois héritier de tout ce qui a été fait par mes prédécesseurs, et j'ai la grande responsabilité de bâtir, je suis héritier et bâtisseur, de bâtir la marine du futur et de continuer l'œuvre de mes prédécesseurs en essayant d'améliorer encore un peu la copie. En 2026, on fêtera les 400 ans de la marine. Mon mandat, c'est 1% des 400 ans. Ça rend humble, en fait, en réalité. Et donc, vous êtes dans cette continuité, vous devez vous situer dans cette continuité de finalement l'ensemble des personnes, des amiraux qui vous ont précédé et qui ont pris des grandes décisions structurantes pour la marine et qui ne se sont jamais trompés, en fait, ou très peu trompés, en réalité. Et donc, quand je regarde, moi, tous mes prédécesseurs qui sont dans la coursive juste à côté de mon bureau, ça renforce le sentiment de responsabilité que je porte vis-à-vis de tout le travail qu'ils ont mené et vis-à-vis de ce que je porte pour la marine dans le futur. Donc cette détermination du temps long, elle est extrêmement importante parce que c'est effectivement le chef d'état-major de la marine qui va expliquer au chef d'état-major des armées, expliquer au ministre tout ce qu'il faut faire pour avoir une marine qui répond aux attentes aujourd'hui en fait de nos autorités politiques et finalement aux enjeux d'aujourd'hui. Que ça soit en mer Rouge. C'est assez intéressant, les conflits auxquels on fait face aujourd'hui. La mer Rouge, le Languedoc, le 9 décembre, en mer Rouge, fait face à la première attaque de drones outils. Et un, l'équipage était prêt. Deux, le bateau était prêt. 2003, le drone a été détruit alors qu'il tentait d'attaquer le navire. Ça, ce résultat-là, c'est pas Nicolas Vaujour. C'est l'ensemble de mes prédécesseurs qui ont construit des bateaux qui sont capables de le faire, qui ont entraîné, qui ont recruté des équipages, entraîné, formé des équipages, qui ce jour-là étaient au rendez-vous en mer Rouge et ont répondu à la menace qui venait les attaquer. Et ce qu'on voit aujourd'hui en mer Rouge, c'est quel est le niveau de préparation opérationnelle de votre marine. Et aujourd'hui, j'ai la satisfaction de voir qu'en fait, on est prêt, on fait face.
On en reparlera de la mer Rouge, mais plus généralement des enseignements des conflits contemporains. Mais justement, puisqu'on reste sur cette dimension structurelle, il y a un grand chantier qui est très structurant, évidemment, c'est le porte-avions de nouvelle génération. Alors, je veux dire, j'ai fait un petit appel aux questions sur Twitter. Il y a un bon tiers qui porte sur le nom du nouveau porte-avions. Donc, je vais pas vous poser la question, puisque je sais que vous ne pouvez pas y répondre et que vous n'êtes par ailleurs pas seul décisionnaire. D'ailleurs, qui décide ?
Ah bah ça sera le ministre et le président en fait en réalité. Donc dans le processus traditionnel de nommage des bateaux, ça passe évidemment par le chef d'état-major de la marine qui travaille avec le service historique de la défense en fait en réalité, ce qu'on appelle l'onomastique, et donc qui propose un certain nombre de noms et de concepts et qui les fait valider par le ministre. Mais évidemment pour le porte-avions, c'est une décision qui va un tout petit peu au-delà. C'est pas un patrouilleur de haute mer, donc ça c'est évidemment validé par le chef d'état-major des armées et puis par le ministre avant d'arriver sur le bureau du président. Et après il y a un moment politique pour annoncer ce genre de choses. Donc oui, on a travaillé sur le nom. Donc il a été partagé, mais après le ministre se charge de voir d'abord s'il le valide, ce qui est pas en coup. Voilà, c'est à lui, c'est sa décision, ou s'il souhaite qu'on trouve d'autres noms, et après en discussion et en accord avec le président, voir quand ça pourra sortir.
Donc ce ne sera vraisemblablement pas ici et maintenant aujourd'hui.
Non, ça sera pas aujourd'hui.
Mais ça pose quand même derrière la question de du coup. Vous, qu'est-ce que vous faites dans la construction du porte-avions ? Parce que c'est assez fascinant, c'est-à-dire, à la fois, c'est quelque chose qui est extrêmement dimensionnant pour l'institution que vous commandez et pour laquelle vous êtes chargé de préparer l'avenir. C'est le chantier de l'avenir. En même temps, c'est aussi un programme de très long terme qui inclut l'Élysée, le ministère, la DGA, Naval Group, l'état-major de la marine, et qui entrera en service sans doute bien après la fin de votre mandat, si je vous souhaite qu'il dure le plus longtemps possible, mais là on parle quand même de 2038-2040. Donc quel est le rôle exactement du chef d'état-major de la marine que vous êtes sur ce chantier qui est le porte-avions de nouvelle génération ?
Alors, de manière générale, le rôle du chef d'état-major de la marine, c'est de préparer les forces pour exécuter les missions qui me sont ordonnées. Donc les missions qui me sont ordonnées, elles font l'objet de, évidemment, de discussions avec l'état-major des armées, le chef d'état-major des armées qui ordonne ces missions sous l'autorité du président de la République. Et donc pour accomplir les missions, que ce soit des missions permanentes ou des missions ponctuelles, on forge des capacités. Évidemment, c'est des bateaux, c'est des avions, c'est des sous-marins, c'est des commandos, et on forme des ressources humaines qui vont avec. Donc, le rôle fondamental du chef d'état-major de la marine, c'est de recruter, former, entraîner, développer des capacités qui répondent aux enjeux auxquels on fait face au quotidien. Pour la marine, on agit en fait dans tous les milieux au quotidien, 24 heures sur 24. La marine est structurée quand même autour de missions permanentes, c'est-à-dire que la dissuasion nucléaire, qui est la première des missions de la marine, mettre en œuvre la dissuasion, la force océanique stratégique, c'est bien une mission 24 heures sur 24, 365 jours par an, qui ne fait pas l'objet d'interruption depuis qu'elle a été mise en place, en fait, en réalité. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement structurant, parce que pendant ce temps-là, il faut fabriquer un sous-marin. On a parlé du porte-avions, mais on fabrique aussi des futurs sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui vont remplacer la classe Triomphant. Pareil pour les années 2040 derrière, et toute la décennie 40 où ça va arriver. Mais pendant ce temps, il faut que je recrute des équipages, que je les forme à ça.
Pour assurer la métaphore célèbre que le pacha du futur porte-avions a dû entrer à l'école navale cette année ou l'année dernière.
Exactement.
On ne sait pas tout à fait qui c'est.
On ne sait pas qui c'est. Il doit être sur un patrouilleur quelque part, peut-être en Polynésie ou aux Antilles, je ne sais pas.
Il ne le sait pas. Il est plus en train de faire du slalom en Bretagne.
Peut-être, il est peut-être sur un bâtiment école, je n'en sais rien. Il ne sait probablement pas, évidemment, qu'il sera le futur commandant du porte-avions. Je ne le sais pas non plus, mais ce qui est certain, c'est que cette personne est en train d'acquérir le socle fondamental qui lui permettra de commander le porte-avions. Et dans la structuration de la marine, on a parlé de fabriquer des bateaux, que ce soit les porte-avions, les avions, les sous-marins. Fabriquer les hommes est probablement le challenge le plus compliqué. Fabriquer un porte-avions, entre guillemets, c'est de la tôle. Fabriquer un commandant de porte-avions ou un commandant de SNLE, c'est une somme de compétences assez colossale. D'abord, c'est des qualités humaines remarquables, au sens une vraie capacité de leadership, une vraie capacité d'écoute, une vraie capacité de compréhension des systèmes complexes, d'agilité dans l'action, etc. Et puis, c'est des compétences techniques et technologiques où il faut savoir comment ça fonctionne, tout simplement. Et typiquement, pour un commandant de porte-avions, il y a tout un volet nucléaire et de formation nucléaire qui est absolument essentiel. Donc, en fait, c'est des gens qu'on prépare, en réalité, et qu'on prépare depuis le plus jeune âge. C'est tout comme un commandant de SNLE. Un commandant de SNLE, c'est tout un cursus qui fait que on estime la personne apte. Et donc moi, je m'engage, moi, chef d'état-major de la marine, je m'engage devant le ministre sur la compétence, la fiabilité et l'excellence des commandants que je propose à sa signature. Et donc ça, c'est une vraie responsabilité du chef d'état-major de la marine. C'est comment je crée le vivier, comment je crée la capacité à commander mes forces. Et c'est vrai évidemment pour les commandants de bateaux, c'est vrai pour mes commandants de force, commandant des forces océaniques stratégiques, le commandant de la force d'action navale, commandant de la force aéronautique navale, tout ça c'est des gens qui ont été détectés assez tôt et à qui on a fait suivre des parcours particuliers et puis on les récupère au bon moment, au moment opportun pour les mettre au bon endroit.
Justement, puisqu'on parle du recrutement, puisqu'on parle du format de la marine, c'est peut-être le moment d'en parler, de la ressource humaine, puisqu'on sait que c'est... structurellement, enfin, c'est l'enjeu structurel des armées, c'est de réussir à recruter, même si je crois que la marine remplit ses objectifs ces années. En ce moment, ça n'a pas forcément toujours été le cas. Et puis, on en avait parlé à ce micro avec l'un de vos prédécesseurs que vous avez cité, l'amiral Prazuc, mais ce n'est pas facile ce qui est demandé. C'est-à-dire, pendant des années, il s'est agi de réduire un peu le format. Et puis, d'un coup, il a fallu remonter en puissance et augmenter, les dimensions en termes de ressources humaines de la marine. Du coup, comment est-ce que vous concevez ça, cette tâche ? Comment est-ce qu'on s'assure que la marine nationale reste désirable pour les jeunes, année après année ?
Alors, vous avez raison, les ressources humaines, le recrutement, la fidélisation sont les enjeux structurants des armées, et de la marine en particulier, évidemment. Nous avons la chance, effectivement, l'année dernière, d'avoir réussi à recruter suffisamment, en tout cas autant qu'on le souhaite, ce qui est une très bonne chose. Et comme je le dis souvent, dans une société qui est finalement assez éloignée du modèle que l'on développe dans la marine, la question c'est de donner envie de rentrer dans la marine, donner envie de rester dans la marine. Ça c'est le deuxième volet, c'est que quand ils sont embarqués, c'est qu'il reste à bord, et donner envie de progresser dans la marine. Donc en fait, ma stratégie, c'est de donner envie d'avoir envie dans la marine, de rentrer dans la marine. Et donc c'est quelque chose qui est véritablement un challenge de tous les jours. Et si j'ai réussi mes objectifs cette année, je ne minimise pas le fait que ça soit très compliqué encore en 2024 et ainsi de suite. Et donc on essaye d'élargir au maximum notre vivier de recrutement, élargir notre base de recrutement. Vous savez qu'on est, on recrute dès l'école des mousses, en fait, fin de troisième grosso modo, jusqu'à la sortie d'école d'ingénieur derrière. Donc un bac plus 4-5, évidemment pour l'école navale, bac plus 2, pour rentrer à l'école navale. Et donc cette palette-là, on essaye de l'élargir au maximum. Donc l'école des mousses est un énorme succès. On va rouvrir en 2025 l'école des apprentis de la marine, qui sera à Toulon et qui viendra accueillir deux grandes spécialités, une spécialité des métiers du numérique et une spécialité des électriciens, qui sont en fait des métiers d'avenir. Et donc l'idée, c'est de prendre en première bac pro des apprentis qui viendront travailler avec l'éducation nationale au cours de la semaine et chez nous en stage derrière, et puis qui iront jusqu'au bac pro, qui seront embauchés par la marine derrière. On pense que ce système-là, et l'expérience des autres armées le montre, nous permettra de consolider notre flux de recrutement derrière. On vient d'ouvrir un BTS nucléaire à Cherbourg, des métiers du nucléaire, qui est très intéressant, qui est sur Parcoursup, donc BTS. 15 places ouvertes, 140 candidats l'année dernière, ce qui est un taux de sélection qui est des fois supérieur à certaines écoles d'ingénieurs, donc ce qui montre bien l'appétence finalement des jeunes pour rentrer dans la marine. Donc ça, c'est une très bonne chose. on va continuer, parce que c'est absolument essentiel, d'essayer de faire matcher les formations qui sont données et délivrées par l'éducation nationale avec les besoins de la marine. Et non, donc c'est pour ça qu'on travaille sur les bacs pro et qu'on travaille sur l'apprentissage.
Et se pose la question, enfin, vous y faisiez référence, quoi, du mode de vie du marin, quoi, de la déconnexion, alors, de la coupure, de l'absence.
Les marins, ils rentrent... alors de fait, il n'y a pas de réseaux sociaux à bord d'un bateau. Quand on part pendant 4 mois, vous êtes déconnecté de WhatsApp, de Discord, de tout ce que vous voulez comme réseau. Mais en fait, les jeunes sont prêts à s'embarquer dans l'aventure parce que le métier a du sens, parce qu'il y a une vraie valeur de l'esprit d'équipage qui porte en fait, qui est véritablement une famille, un cadre dans lequel les jeunes aiment se retrouver derrière. Et ils viennent parce que l'image de la marine est bonne, il y a une image d'aventure, etc. Ils restent parce que le métier a du sens et que le sens du service de la nation, en fait, est quelque chose qui est un peu supérieur et qu'ils apprennent à découvrir sur le bateau. Et cette transformation, on la voit s'opérer. Au départ, quelles escales on va faire, où est-ce qu'on va aller, etc. Et ça, c'est très chouette. Et puis après, la mission, elle est quand même extrêmement importante, protéger un bateau, sauver des gens en mer, etc. Et donc ça, il reste parce que le métier a beaucoup de sens. Et donc on arrive à les faire passer de cet esprit « je m'engage parce que ça a du sens » à « je reste parce que je suis au service de la nation » et que tout ça, c'est finalement très fort. Et l'esprit d'équipage qui engendre tout ça, est véritablement également très fort. Or, souvent, les jeunes, aujourd'hui, quand ils regardent les armées, recherchent un cadre dans lequel ils peuvent évoluer, dans lequel ils peuvent progresser. Et c'est finalement un cadre qui est très ouvert, au sens où, l'année dernière, il y a un an et demi, le commandant supérieur aux Antilles, qui est un amiral, était un amiral qui était rentré matelot dans la marine, matelot-pilote. Là, aujourd'hui, j'ai un commandant de sous-marin nucléaire d'attaque, Barracuda, qui a commencé comme matelot opérateur sonar dans la marine. Donc, en fait, la perspective qui est donnée par la marine, elle attire. Vous ne rentrez pas dans la marine en vous disant « je vais rester matelot toute ma vie ». En fait, non, la marine va vous permettre de progresser, va vous donner l'opportunité de progresser. Et alors évidemment, ça nécessite du boulot, ça nécessite de travailler, mais c'est accessible et on vous accompagne. Et... À Cherbourg, on a visité justement l'école des l'école du génie atomique en fait à Cherbourg. Et quand on présentait cette école au ministre et au président lors des vœux à Cherbourg, on lui présentait un garçon qui est rentré comme mousse dans la marine et qui aujourd'hui était second maître brevet supérieur atomicien à Cherbourg. Et donc qui a eu cette force d'élever son niveau, parce que quand il est entré mousse, en fait, ça veut dire qu'il n'avait pas une perspective scolaire si importante que ça, et finalement, maintenant, il a un niveau ingénieur atomicien. Et donc, en fait, c'est juste extraordinaire. Et cette perspective qui est offerte, c'est une opportunité qui est donnée à l'ensemble de ces jeunes marins qui arrivent. Ils savent la saisir pour la plupart, mais ça leur donne des perspectives extraordinaires. Donc, en fait, c'est ça ce qu'il est. Cette capacité de progresser, ces perspectives qui leur sont données, évidemment, c'est pas, on les force pas, hein, ils sont tous volontaires.
Mais juste pour rester sur la question du vivier, est-ce que, c'est-à-dire les objectifs ont été atteints, c'est super, pourvu que ça dure, et en même temps, ça peut aussi ne pas durer. Est-ce qu'il y a une idée quand même de, comme ça se fait beaucoup ailleurs dans d'autres marines, de baisser un peu le format des équipages? Alors il y a eu l'expérience des équipages optimisés, etc. Et, c'est-à-dire sur le long terme que ça paraît rationnel vu les difficultés de recrutement et puis vu aussi la technologisation croissante, de baisser les formats des équipages, ou est-ce que c'est pas la piste qui est envisagée du tout à l'époque, enfin aujourd'hui, à l'heure actuelle?
Alors de fait, il y a eu tout un mouvement d'optimisation des équipages, et quand on regarde l'histoire de la marine, les grosses frégates Duquesne par exemple, il y a quelques années, embarquaient un peu plus de 300 personnes à bord. La génération d'après, les frégates type 70, Jean-Bart-Cassard, embarquaient un peu plus de 200 personnes. Et aujourd'hui, sur les frégates multimissions, on a un peu plus de 100, 120. Et en fait, l'expérience montre qu'on a atteint un peu le seuil bas. Et notamment quand on fait face à des crises un peu d'intensité supérieure, comme on l'a un peu en mer Rouge. On est arrivé, on a touché un peu le seuil minimal, et il m'a semblé en fait plus exactement qu'on était peut-être un peu bas même. Et donc j'ai décidé de renforcer un peu les équipages, notamment de nos frégates et puis des classes Suffren également, de façon à ce que on augmente un peu la résilience de nos bateaux pour être mieux capable de faire face à ces missions dites de haute intensité. Donc il y a le mouvement qui a consisté à optimiser les équipages avait pour but de préserver une optimisation entre format et ressources humaines. On bénéficie aujourd'hui d'une loi de programmation qui nous permet de redonner quelques marges, et donc j'exploite ces marges pour renforcer maintenant la résilience de la marine, et notamment de nos équipages, parce que c'est ce qui me semble le plus urgent aujourd'hui au regard de la situation internationale.
Si on revient une seconde à votre parcours, parce qu'on l'avait laissé au premier passage à Paris, je peux dire que vous avez eu, pas une spécialité, mais en tout cas vous avez eu une fonction spécifique en état-major à plusieurs reprises, qui est le suivi des opérations. Donc vous avez été sous chef Ops d'abord à l'état-major de la marine en 2018, puis à l'état-major des armées en 2021. Alors peut-être expliquez-nous d'abord ce que c'est cette fonction exactement, est-ce que vous y avez trouvé ?
Alors d'abord sur les opérations de manière générale, vous avez raison, ça a été un driver assez fort de ma carrière, même si, on l'a rappelé tout à l'heure, j'ai été dans un cabinet auprès du général Georges Lin, j'ai fait du développement capacitaire également par ailleurs. Mais les opérations ont été un grand driver. Donc le sous-chef opération de la marine que j'ai été, qu'on appelle ALOPS, en fait, l'amiral commandant les opérations, lui prépare en fait tous les engagements que l'on va avoir, que l'on peut planifier en fonction du budget que l'on a, de la disponibilité de nos bateaux, etc. Et vient conseiller à la fois le chef d'état-major de la marine et puis le chef d'état-major des armées en disant voilà, face à telle problématique, voilà ce que la marine peut proposer. Donc on planifie à la fois sur le long terme et à la fois sur le très court terme, très réactif, pour proposer des options en fonction de ce qu'on a de disponible. Donc on est très dans l'anticipation, quand on est chef ops de la marine, dans l'anticipation, dans l'optimisation des moyens pour proposer des options à la fois chef d'état-major de la marine, chef d'état-major des armées. Chef d'état-major de la marine étant le conseiller du CEMA pour les opérations marines. Quand vous êtes sous-chef opération des armées, là vous planifiez et vous faites conduire les opérations des armées, mais du moment. Donc là, vous êtes vraiment dans la boucle décisionnelle et dans la charnière politico-militaire extrêmement investi dans tout ça. Ça veut dire que toutes les semaines, vous êtes en réunion au cabinet du ministre ou à l'Élysée pour aller discuter des options, des manières de faire et un certain nombre de choses. Et évidemment, dans le process décisionnel, vous apportez au chef d'état-major des armées les options construites de ce que l'on peut faire et de ce que l'on délimite de ce que l'on peut faire. Et évidemment,
il faudrait intervenir là, oui d'accord, ça implique tel et tel navire.
Quel est le niveau? Alors quand vous êtes au niveau des armées, c'est pas que les navires, c'est évidemment les avions de l'armée de l'air, c'est les troupes de l'armée de terre, etc. Voilà ce que ça veut dire, voilà le risque que l'on doit assumer sur cette mission, et voilà les effets qui sont attendus, qu'on peut faire, et donc on vous recommande telle ou telle option. Le chef d'état-major des armées valide l'option qu'il va présenter lui-même au président, et le président valide ou pas, et après j'exécute. En tant que sous-chef opération, on fait exécuter la manœuvre d'ensemble qui a été validée par le président. Ça peut aller extrêmement vite. Il y a des opérations qui sont très compliquées. Moi, j'ai vécu le début de la guerre en Ukraine, alors avec comment on va aider l'Ukraine, comment on peut se positionner, etc. Et j'ai vécu l'opération au Soudan, l'évacuation du Soudan, où ça va très très vite. Et là, vous êtes dans la machine à laver qui va jusqu'à la décision, qui va jusqu'à l'exécution des opérations. Donc c'est quelque chose de très marquant, très marquant, parce que en France, finalement, on a la chance d'avoir des armées qui sont extrêmement réactives qui ont des savoir-faire extrêmement bons, qui nous permettent de faire face à toutes ces situations de manière extrêmement réactive. Donc, c'est
on a le luxe d'avoir souvent des bonnes options à proposer, ce qui n'est pas le cas.
Je ne sais pas si c'est un luxe. Disons qu'on a la force d'être capable de proposer des options et d'avoir un alignement politico-militaire qui est fort et qui fait qu'on est capable de décider très vite sur des options qui nous permettent d'être réactifs et d'aller au plus direct.
Alors justement, vous en avez parlé, vous avez vu le début de la guerre en Ukraine. Alors justement, ça nous fait évoluer peut-être vers les conflits plus contemporains, mais justement, qu'est-ce que vous en avez... Parce que vous étiez sous-chef ops à l'état-major des armées, mais avec toujours votre casquette de marque. Et en même temps, cette guerre en Ukraine, bon, l'attention n'était pas particulièrement sur la partie navale, en tout cas au début. Alors il y avait les choses autour de l'île aux serpents quand même, il y avait toute une dimension stratégique de la mer Noire. Mais les regards étaient plutôt tournés vers le Donbass et vers Kiev au début. Voilà, quelle a été votre analyse, disons, en première intention de ce qui se passait dans cette guerre en Ukraine sur le point de vue maritime ?
Alors, sur le point de vue maritime, de fait, quand on prend un peu de perspective au-delà du début de la guerre en Ukraine, il faut regarder entre le début de la guerre et aujourd'hui. Le début de la guerre en Ukraine, la mer Noire était à la Russie. De fait, comme vous disiez, l'île aux serpents avait été prise par les forces russes.
Ce qui restait de marine ukrainienne a été rapidement détruite.
Ce qui restait de marine ukrainienne a été rapidement détruit. Et ce que l'on observe maintenant, deux ans et demi plus tard, c'est qu'en fait la mer Noire est ukrainienne et que finalement un pays avec peu de forces maritimes a réussi à repousser les forces russes de la mer Noire, ou plus exactement à les mettre un peu dans les cordes. Alors c'est très particulier parce que la mer Noire est fermée. Et donc, ce n'est pas quelque chose que l'on peut répliquer en Atlantique ou ailleurs. Mais ça dit beaucoup de choses. Ça dit d'abord que, finalement, les forces russes ne sont pas aussi fortes que ce qu'on pouvait imaginer. Deux, ça montre que l'innovation est capable de challenger, en fait, les plus grandes marines. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à prendre en compte. Et que le contournement de la puissance est quelque chose qui existe. Là, typiquement, en mer Noire, par les drones, ou par l'emploi de missiles de croisière quand un bateau est à quai, etc. Donc en fait, on a une...
Qu'est-ce que ça vous a fait de voir le Moskva couler ? C'est-à-dire, voir un navire de cette taille-là couler, que vous avez peut-être déjà croisé en mer ou pas, mais voir un croiseur couler par rien, enfin par des drones, des missiles, etc.
Plutôt des missiles pour le Moskva. Quelque part, alors d'abord, vous l'avez dit sans le savoir, mais il se trouve que quand je commandais le Chevalier Paul, j'ai croisé la Moskva en Méditerranée orientale et que nous avons joué au chat et à la souris à l'époque dans cette zone-là.
Il vous a fait l'illumination radar.
Et donc on a joué au chat et à la souris ensemble avec le degré de tension standard du moment. Donc c'était un beau bateau, objectivement. Un beau bateau avec puissamment armé, bien manœuvrant de ce que j'ai pu en voir à l'époque, en 2013, si j'ai pas de mémoire. Et donc, quand il a été coulé, en fait, c'est jamais. Il y a toujours un sentiment un peu partagé. Il y a un côté. Les Ukrainiens ont gagné une bataille, tant mieux. Et puis, il y a un côté. Regardons ça avec un peu de recul et gardons la tête froide. Est-ce qu'on aurait été touché de la même manière ? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils n'ont pas bien fait ? Auquel je dois m'entraîner pour être sûr de pouvoir faire face. Et donc, de fait, en regardant la menace qui a attaqué le Moskva, est-ce que moi je suis prêt ? Et c'est bien, en fait, le fondement du métier du chef d'état-major de la marine, c'est est-ce que je suis prêt ? La seule vraie question que je dois me poser, c'est est-ce que je suis prêt ? Quand je commandais mon bateau, le Chevalier Paul, quand on rappelait au poste de combat, pas pour exercice, quand on rappelait au poste de combat en situation de tension, la question que vous posez quand vous montez en passerelle, quand vous montez en centrale opération, c'est est-ce que je suis prêt ? Est-ce que mon équipage est prêt ? Est-ce que je les ai formés ? Est-ce que je les ai entraînés à tout ? Est-ce qu'ils vont être capables de réagir ? Parce que vous êtes pas, vous pouvez pas tout faire. Donc, dans l'action, ça va se dérouler comme vous avez appris à votre équipage. Pour la marine, c'est la même chose. Est-ce que je suis prêt ? Est-ce qu'on a tout prévu ? Et donc là, tout le rétexte qu'on a aujourd'hui de la situation en mer Noire, l'utilisation massive de drones navals, l'utilisation de missiles anti-navires, toute la question que l'on a, c'est est-ce que mes bateaux sont prêts à faire face à ça aujourd'hui si ça devait se retourner contre moi.
Juste pour rester une seconde sur le Moskva, ouais.
L'autodéfense. Ouais. L'autodéfense a été défaillante de la Moskva. De fait, alors j'ai pas le compte rendu d'enquête russe, mais c'est pas normal sur un bateau de cette classe-là de ne pas détecter deux missiles anti-navires. Voilà. Et donc après, il faut être capable de les intercepter. C'est ce qu'on voit en mer Rouge aujourd'hui. Hein. Être capable de détecter et d'intercepter. Tout le monde n'est pas capable de le faire. La Russie a probablement minimisé un peu son savoir-faire en autodéfense. Et c'est vrai aussi dans le domaine des drones. Les drones sont plus compliqués à détecter finalement presque que les missiles. Un missile, vous avez un radar, ça va. Mais les drones de surface comme ça, au ras de l'eau, c'est pas si simple que ça à détecter. Donc là, il vous faut des boules optroniques de bonne facture pour pouvoir détecter ça. Et puis des armes d'autodéfense. Il se trouve que la Marine nationale a pendant plus de 10 ans fait face à de la menace terroriste. Vous vous souvenez peut-être de l'USS Cole à Aden. L'USS Cole à Aden, ça a fait fondamentalement changer la manière de nous entraîner en autodéfense. Face à ce type de menaces, c'est-à-dire à l'époque c'était des menaces avec habitées entre guillemets, avec des bateaux qui venaient s'exploser contre la coque, mais finalement ce que fait l'Ukraine c'est la même chose, sauf que c'est pas habité, et donc on a développé pas mal de...
L'USS Cole, je rappelle, c'est donc ça, un destroyer qui s'est fait taper en face d'Aden, mais en 2000, quelques mois avant le 11 septembre.
Voilà. Et donc cette menace terroriste à laquelle on a fait face, en fait on s'est adapté. Je pense que la marine russe n'a pas fait face au même ressenti de la menace terroriste face à leurs troupes, à leurs forces. Et donc, nous, marine française, marine occidentale de manière générale, on a développé ces systèmes d'autodéfense en zone rapprochée pour lutter contre ça. Et donc, finalement, aujourd'hui, face à de la menace drone navale, drone de surface, on a probablement plus d'armement qu'eux. Ça ne veut pas dire qu'on est très bon. Ça veut dire qu'il faut s'entraîner à ça.
Non mais parce que c'est le côté dissymétrique qui est vertigineux, quoi. Oui. C'est-à-dire avec un drone de quelques dizaines de milliers d'euros, vous coulez un croiseur. Enfin, alors, c'est pas que les drones, mais les drones ont fait partie de l'opération.
Avec le drone de dizaines de milliers d'euros, vous ne coulez pas un croiseur, vous allez le taper, oui. Aujourd'hui, les drones qui tapent un bateau, s'il vaut que 10 000 euros, le drone ne fera pas beaucoup de dégâts. C'est un missile qui fera des dégâts. Ça, c'est vrai.
Mais... Alors, on n'a pas exactement le post-mortem, mais il y avait eu la saturation, notamment par des drones qui tournaient tout autour du Mosva et qui ont probablement obnubilé une partie de ses défenses.
Bien sûr, et puis après, et la capacité à poursuivre le combat quand vous êtes sous menace ou quand vous avez pris un coup, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, c'est quelque chose auquel on s'entraîne. Ça, c'est du retour d'expérience de la guerre des Malouines qui nous a été appris par les Britanniques. Les Britanniques ont beaucoup souffert de la lutte antimissile pendant la guerre des Malouines. Et en fait, ils ont appris à continuer le combat malgré le feu à bord, malgré les impacts qu'ils avaient pu se prendre, etc. On a complètement importé, en fait, cette manière de s'organiser, cette manière de poursuivre la lutte, qu'on appelle la MACOPS, le maintien des capacités opérationnelles. Le maintien des capacités opérationnelles, c'est vous voulez à tout prix continuer le combat dans un domaine, que ce soit lutte antiaérienne, lutte contre les bateaux, et vous avez quand même un incendie à bord. Et en même temps, vous prenez un impact quelque part. Comment vous faites? Comment vous maîtrisez à tel point votre bateau que vous êtes toujours capable de poursuivre et de continuer? La résilience à l'état pur et jusqu'au bout. Donc ça, c'est quelque chose auquel on s'entraîne fondamentalement. Je ne suis pas sûr que les Russes l'aient fait.
Et simplement pour les drones, est-ce que vous concevez ça comme quelque chose d'assez propre à l'Ukraine et à la mer Noire? Puisque après tout, vous l'avez dit, c'est une mer fermée, c'est une mer qui est très bien connue, c'est aussi une mer où les distances sont assez limitées. Donc, c'est pas très difficile d'être à portée du drone pour le contrôler en phase terminale. C'est pas forcément la même chose quand on est sur des espaces océaniques. Ou est-ce que vous dites que c'est ça, pour le coup, c'est une menace qui peut arriver partout, tout le temps, et que donc il faut développer de l'autodéfense spécifiquement pour les drones, pour tous les navires en permanence?
Alors, il y a deux questions. Est-ce qu'il faut développer de l'autodéfense pour les bateaux? De toutes les façons, il y a des moments où vous vous retrouvez en zone côtière où vous pouvez être soumis à cette menace drone de manière assez évidente et facile. Donc, dans les détroits, Bab el-Mandeb, Hormuz, Malacca ou autres, vous devez être capable, parce que vous êtes proche des côtes, de faire face à ce genre de menace. Donc ça, de toutes les façons, il faut être capable d'eux. Donc il faut s'entraîner, il faut avoir les matériels pour, etc. La question de est-ce que les drones sont valables partout tout le temps, en fait ça c'est une vraie question où aujourd'hui un drone en pleine mer, quelle est sa fonction en réalité? À quoi peut servir le drone? Il peut vous faire un relais radio, un relais radar, augmenter votre image de ce qui se passe en mer, etc. Mais la pertinence du drone, elle est beaucoup plus dans, quand on voit dans une zone fermée ou assez proche de votre pays l'attaque, comme les jouent les Ukrainiens, la surveillance maritime, comme le jouent les Houthis aujourd'hui, où avec des drones, ils essayent de détecter les bateaux d'intérêt israélien, etc. Ou alors le drone suicide qui vient attaquer derrière. Donc ça existe. La grande haute mer avec des drones, c'est pas encore quelque chose de très robuste. Pour être très clair, aujourd'hui, c'est plus un mode d'action qui existe dans les zones côtières, Voilà. Donc c'est quelque chose que nous, on développe pour la Marine nationale. On a des drones qui nous permettent d'augmenter notre capacité d'appréhension en haute mer, c'est-à-dire qu'ils partent d'un bateau, soit qu'ils sont catapultés, c'est des tout petits drones qu'on met sur les petits bateaux, avec une mini-catapulte autour notamment des avisos qui nous permettent d'aller voir beaucoup plus loin, ou alors autour des PHA aujourd'hui, porte-hélicoptères amphibies, qui nous permettent d'aller voir beaucoup plus loin avec les S-100, et qu'on va continuer à développer pour les gros bateaux derrière. On a aussi des drones pour la guerre des mines, qui nous permettent d'éviter d'aller mettre un homme à côté de la mine, mais d'aller chasser les mines avec des systèmes de drones qui permettent d'éviter de rapprocher trop l'homme de la menace, entre guillemets. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on développe. Le drone de très haute mer, on y travaille, on réfléchit beaucoup avec nos industriels, avec les partenaires étrangers. Il y a probablement des choses à faire, mais ça sera plus compliqué. Ça sera plus compliqué, parce que c'est le drone, il faut qu'il soit robuste pour aller en haute mer.
Et développer une capacité de vraiment porte-drone, c'est-à-dire pas seulement des drones qui soient ajoutés sur des navires existants qui n'ont pas forcément été pensés pour, mais développer des plateformes spécifiques pour amener des drones en haute mer ou en tout cas dans un endroit d'intérêt, y compris en convertissant, recouvertissant d'anciens navires. Est-ce que c'est une perspective d'actualité ou pas?
Alors, en guerre des mines, on aura des bâtiments porte-drones, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va développer des bâtiments qui seront capables d'emporter les drones qu'aujourd'hui on opère à partir de la Terre. Et donc ça, c'est un petit peu plus tard, ça va arriver, c'est dans la programmation militaire. De fait, il y a des pays qui réfléchissent à ces fameux bâtiments porte-drones, je pense au Portugal, je pense à la Turquie, etc., qui développent ces concepts-là. Et c'est assez intéressant à regarder. Toute la question de ces choses-là, c'est la question de l'autonomie du drone dans la mission qu'il aura à réaliser le type de mission que l'on veut donner à ces drones-là. Aujourd'hui, dans la marine française, on a toujours quand même la volonté, pour l'effet militaire final, d'avoir l'homme dans la boucle et d'être capable de piloter l'ensemble. Donc il y a une autonomie d'opération du drone, mais il y a toujours l'homme dans la boucle de la décision de l'attaque derrière.
Alors, puisque on parlait de ces conflits contemporains, évidemment, donc il y a l'Ukraine, mais ce qui tient le haut du pavé en ce moment pour la Marine nationale, c'est la Mer Rouge et les missions d'interception des missiles et des drones autistes qui visent donc soit le commerce maritime, soit directement les navires de guerre. Bon, vous en avez parlé de ces missions et du fait que les FREM, donc Languedoc et Alsace, elles y étaient prêtes, enfin elles ont réussi à intercepter ces missiles et ces drones. La question fondamentale que ça pose et que tout le monde pose, c'est celle de la soutenabilité. C'est-à-dire, voilà, s'il faut claquer un missile Aster pour chaque drone de milliers ou de dizaines de milliers d'euros, ça peut valoir le coup, et certainement que ça vaut le coup absolument de protéger certaines cibles, mais ça pose la question de jusqu'à quand est-ce qu'on va pouvoir faire ça. Donc voilà, quelles sont les perspectives en quelque sorte pour retrouver, pour diminuer d'abord ce différentiel de coût et pour trouver de la soutenabilité à ce genre de mission?
Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a d'abord... Est-ce que ça vaut le coup de tirer un missile Aster contre un drone? Il ne faut pas oublier que le bateau que l'on protège est souvent un bateau, un porte-container, qui porte beaucoup de containers et qui représente, bon an mal an, une valeur marchande de plus d'un milliard d'euros. Ça diminue déjà pas mal le coefficient de rentabilité du missile Aster par rapport au drone. Et de fait, vous protégez une cargaison qui a une vraie valeur. Ça, c'est la première chose.
Mais donc, il faut les avoir aussi, les missiles Aster.
Après, il faut avoir les missiles Aster. Mais... Donc la première question, c'est est-ce que ça vaut le coup de tirer un missile Aster? Ça, c'est une vraie. C'est, je pense que oui, évidemment, à partir du moment où vous avez quelque chose à protéger qui est extrêmement précieux. Après, la question de comment vous interceptez le drone, là, elle peut se poser. C'est est-ce que vous avez que le missile Aster ou vous avez d'autres systèmes? Donc le missile Aster, il a été défini et construit en fait pour intercepter d'abord et avant tout des avions, des missiles, etc. Il se trouve qu'en mer Rouge, on fait face à des drones qui ressemblent à des avions, petits avions qui vont assez lentement, mais on fait face également à des missiles anti-navires, on fait face également à des missiles balistiques. Là, la question, elle ne se pose pas. Quand vous êtes face à un missile, et là, c'est la question de la MOXVA, quand vous êtes face à un missile, l'interception, elle se fait qu'avec un missile Aster. Et là, il n'y a pas photo, un missile, ça fait des gros dégâts sur un bateau, quel que soit le bateau, et un missile balistique encore plus. Donc voilà, et là, on a démontré notre capacité à intercepter les missiles antinavires, mais également les missiles balistiques, ce qui était en fait une première dans un cadre opérationnel. Jusque-là, on avait intercepté des missiles balistiques, mais plutôt en exercice, dans les centres d'essai. C'est pas du tout la même chose de le faire en mer, en opération, avec un préavis extrêmement faible. Donc, le missile Aster, il a vraiment toute sa place dans la panoplie. Après, la question, comme je disais tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut pas essayer de taper avec autre chose qu'un missile Aster ? Et là, oui. La réponse, c'est l'artillerie. Et comment on renforce un peu nos systèmes d'artillerie de manière à être capable de tirer un petit peu plus loin ? Donc ça, c'est quelque chose. Et là, quand je parlais d'agilité du temps court derrière, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. Donc nos missiles, nos canons sur frégate aujourd'hui sont capables d'intercepter ce type de menace. Et on l'a démontré encore récemment. Mais pour aller un petit peu plus loin, j'allais dire pour augmenter la zone de recouvrement entre le missile Aster et le canon, en fait, on va modifier un petit peu nos bateaux, améliorer un petit peu nos capacités pour être capable de tirer un petit peu plus tôt en fait, ces drones, pour éviter de devoir tirer missile quoi qu'il arrive. Voilà. Donc on est dans cette phase-là.
Mais c'est fascinant comme option, parce qu'il y a deux options. Il y a l'option de la rusticité, c'est-à-dire est-ce qu'on ressort la 12-7 du garage et qu'on la monte...
Non, on parle plutôt d'un canon de 76 mm, donc c'est pas de la 12-7, c'est quand même un petit peu plus balèze.
Ou est-ce qu'on va dans un truc très technologique, ce qui est possible aussi. Il y a des systèmes, notamment le Rapid Fire, qui sont des systèmes de défense à très courte portée. Voilà.
Mais le Rapid Fire tire moins loin que le 76 mm aujourd'hui. Mais donc le 76 mm est une bonne réponse aujourd'hui. C'est un canon de défense qui peut faire à la fois de l'antinavire et à la fois de l'antiaérien, qui peut très bien travailler contre une menace de surface, type un drone de surface, ou travailler sur un type drone aérien. La conduite de tir est un élément central dans l'ensemble du système. Et donc nous, notre idée là aujourd'hui, c'est de renforcer un peu cette chaîne canon, de façon à être un peu plus rustique, un peu moins cher par coût, entre guillemets, derrière. Et donc on travaille dessus, dans une grande agilité avec la DGA et les industriels, parce qu'on a vu des voies d'amélioration, de les prendre pour augmenter notre résilience derrière. Et on travaille dans d'autres domaines. On a fait des exercices. En fait, on a demandé aux industriels, OK, voilà la menace à laquelle on fait face aujourd'hui en mer Rouge, et voilà ce que les Ukrainiens rencontrent en mer Noire. Et vous allez mettre sur les bateaux tout ce que vous avez sur étagère aujourd'hui qui est capable de lutter contre les drones. Et puis on va sélectionner le meilleur. Et donc ça, on a fait ça il n'y a pas longtemps. Il y a trois semaines, on a fait un exercice comme ça à Toulon. Et on avait 6 ou 7 systèmes qui étaient testés. Il y en a un qui sortait du lot, très clairement. Et donc, on va embarquer sur les bateaux tout de suite. Voilà. Donc,
c'est lequel ?
Ah, non, je ne le dirai pas. Mais il y en a un. Non, mais c'est toujours intéressant. Et en fait, beaucoup de gens parlent sur la lutte anti-drone en disant « Oh, il y a plein de systèmes, etc. » Donc moi, mon système Aster, il fonctionne. Alléluia. 2, mon système canon, il fonctionne, mais j'ai trouvé des voies de l'améliorer encore. On va l'améliorer. 3, on a mis tous les industriels sur la table pour dire qu'est-ce que vous avez dans l'imagination, dans l'inventivité, dans l'innovation que vous êtes capable de mettre, que ce soit des systèmes de destruction, des systèmes d'interception, des systèmes de guerre électronique, des systèmes de l'orage. Montrez-moi. Et là, on en a trouvé un qui répond pas mal à notre question, on va l'embarquer. Et donc, au-delà de l'essai qu'on a pu faire à Toulon, c'est toujours pareil, les essais, c'est toujours une situation très particulière. On va le tester en opération, en vrai, et on va voir ce que ça donne. Mais normalement, ça me permet d'augmenter ma bulle de protection autour du bateau. Et c'est ça ce que je recherche. Augmenter ma bulle de protection et donc gagner du préavis et permettre de traiter la menace au plus tôt pour ne pas être saturé, en fait, tout simplement.
Plus généralement, ça ravive aussi un peu un vieux débat sur la question de l'armement, notamment des frégates. C'est-à-dire, les frégates ont-elles suffisamment d'armement ? On sait que il y a des frégates... Par exemple, les FDI françaises vont être moins armées, enfin vont avoir moins de silos de missiles que les FDI grecs. Est-ce que, disons, le retour, enfin pas le retour, mais disons, ce genre de situation qu'on voit en mer Rouge, qu'on est amené probablement à voir ailleurs bientôt, fait un peu repenser ses choix, fait se demander aussi sur certains bâtiments où on pourrait en rajouter, si on ne va pas en rajouter, ou est-ce que ce n'est pas forcément des options du moment ?
Alors, c'est pas forcément une option du moment, mais en tout cas, c'est une vraie question. C'est-à-dire que, de fait, on a fait des choix qui permettaient, comme toujours, d'optimiser les coûts de développement, de fabrication des frégates, et donc pour les frégates de défense et d'intervention. Il y a un certain nombre de choix qui ont été faits, et que j'assume d'ailleurs tout particulièrement, puisque j'étais au tout début de ce programme. Mais il est vrai que la situation n'est pas exactement celle dans laquelle on était quand on a fabriqué ces bateaux. Et donc, c'est évidemment quelque chose qui va être reposé sur la table. Alors, il se trouve qu'on a développé la première, on a construit la première qui va bientôt nous être livrée, donc ça ne va pas se mettre en œuvre tout de suite, mais que sur les suivantes ou sur celles d'après, on pourra se reposer la question, bien évidemment. Donc, il y aura des travaux pour avancer dans ce domaine-là. Oui, ça, c'est certain.
Et plus généralement, bon, c'est la grande question pour tout le monde, c'est s'il y a un engagement majeur, donc un engagement, on appelle ça aussi la guerre de haute intensité, mais bon, peu importe. Du coup, ça pose la question du format de la marine, qui est la question... évidemment, ce n'est pas à vous que vous n'êtes pas la bonne personne à qui poser l'entièreté de la question, puisque vous faites dans le cadre des moyens qui vous sont alloués par les LPM. Donc, si je vous demande si vous voulez plus de navires, vous allez probablement me répondre oui. Ce n'est pas l'objet. Mais en tout cas, la question, c'est quel est le format de marine auquel on pense pour être capable de répondre aux engagements, à un engagement majeur. Et aussi, quel est... Si je prends un exemple, est-ce que, par exemple, aller en Indo-Pacifique, projeter des moyens en Indo-Pacifique, par exemple, le porte-avions sera en Indo-Pacifique l'année prochaine, en 2025, est-ce que, disons, ces élongations, ces ambitions globales, sont adaptées au format de marine qu'on est capable de déployer en ce moment?
Alors, il y a plusieurs questions qui sont dans cette question vaste. La première, c'est est-ce qu'on a un format suffisant, etc. On a le format des moyens qui nous sont alloués, c'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure, et c'est la bonne réponse d'abord. Moi, je n'ai qu'à me féliciter de cette loi de programmation militaire qui est objectivement très bonne au sens le volume financier qui est posé sur la table est un niveau très élevé, et donc à nous maintenant de mettre en œuvre avec ces moyens le mieux que l'on peut avec chaque euro qui nous est donné derrière. La guerre de haute intensité ou l'engagement de haute intensité, il s'entend de toutes les façons en coalition. Ce qui veut dire que il faut que j'aie partout dans le monde des partenaires avec qui je pourrais m'engager en fonction des crises qui vont émerger. Ça peut être en Méditerranée dans un cadre européen, ça peut être en Méditerranée dans un cadre OTAN, en Atlantique tout seul, ça peut être à la rigueur dans des formats ad hoc un peu partout dans le monde, peu importe. La question pour moi, c'est les partenariats. Pour faire face à la haute intensité, j'ai besoin de partenaires de confiance et qui seront alignés avec la posture de mes autorités politiques pour avancer dans une opération. Typiquement aujourd'hui en mer Rouge, c'est pas la France tout seul, c'est l'Europe finalement qui a développé cette mission Aspides et qui permet à plusieurs de protéger le trafic commercial. J'aurais été incapable de le faire tout seul, objectivement, pas avec un bateau. Alors voilà, j'aurais peut-être pu en mettre plusieurs, mais bon. Donc on a la question du partenariat qui répond à la question de la haute intensité et la durée nécessitent des partenaires. Donc moi, dans mon métier, quand je dis je dois être prêt, c'est pas moi uniquement, c'est les partenaires et moi. Et donc j'ai un effort assez important sur les partenariats depuis que j'ai pris mes fonctions, sur rencontrer mes homologues, voir avec qui je peux travailler, m'entraîner avec eux, développer des exercices avec eux, développer éventuellement des capacités avec eux, et puis le jour où ça fargue mal dans la région dans laquelle on est, essayer de constituer les coalitions ad hoc pour répondre à cette question. Donc ça... La guerre de haute intensité, c'est les partenaires. C'est évidemment au sein de l'OTAN, c'est évidemment avec les pays européens, avec les Américains, etc. L'autre sujet auquel on fait face, c'est la simultanéité des crises. En fait, aujourd'hui, forcément, j'ai plusieurs théâtres qui sont activés, que ce soit l'Atlantique Nord, la Baltique, où il y a des tensions, la Méditerranée, l'océan Indien, etc., l'Indo-Pacifique. Et donc la question, c'est comment je réponds à l'ensemble de cette équation. C'est évidemment pas très simple, mais là encore, c'est partenariat. C'est-à-dire que je ne peux pas y être en permanence avec des moyens colossaux dans toutes les zones du monde. En revanche, à chaque fois que j'y suis ou à chaque fois que d'autres partenaires se déploient, comment on peut optimiser nos déploiements pour être plus forts ensemble, entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec les partenaires les plus proches, notamment les marines européennes. Comment on peut partager l'effort de nos déploiements en Indo-Pacifique, puisque vous avez parlé là-bas, pour adresser finalement le même message stratégique quand on fait ce type de déploiement. Le jour où j'aurai une crise de haute intensité proche de nos côtes et où j'ai pas assez de partenaires, je devrais prioriser, forcément. Voilà. Mais c'est notre rôle de prioriser, donc c'est pas un problème. Quelque part, aujourd'hui, on essaye de faire le maximum avec ce que l'on a. Évidemment, en fonction de la crise, on répondra d'une manière adaptée.
Merci beaucoup, Amiral Vaujour.
Merci.
Merci beaucoup à l'amiral Vaujour. Je fais cette petite conclusion un peu à part pour mentionner que, comme les auditeurs attentifs auront remarqué, j'ai eu des petits soucis ORL depuis quelques semaines qui m'ont donné cette voix sous-optimale depuis quelques émissions dont je m'excuse et m'ont obligé aussi à conclure cet entretien de manière un peu abrupte. Comme vous l'entendez, ça va mieux et j'en profite pour rappeler que c'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio et que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon, tout comme sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.